I'm joined today by Linda Gehry and Maria Teresa Zambrano from the Education Without Borders Collective to discuss the ongoing struggle for children and families of precarious immigration status and their access to education in Quebec. Présentement, quelle est la situation des enfants sans papiers?
Alors, la situation des enfants sans papiers aujourd'hui au Québec, alors qu'est-ce qu'un sans-papier? Déjà, pour commencer, c'est en fait une personne, en général, c'est des familles ou des personnes qui ont un statut d'immigration qui arrive à échéance et qui n'est pas renouvelé, en fait, que le gouvernement refuse de renouveler le statut à certaines personnes, soit visa de tourisme, soit visa de travail, soit visa d'étudiant. Donc on peut dire en fait que les sans-papiers sont fabriqués en quelque sorte par les États qui refusent de renouveler un statut que des personnes avaient auparavant. Voilà, donc aujourd'hui au Québec, les enfants, il y a des enfants sans-papiers qui n'ont pas accès à l'école gratuite. Ils n'y ont pas droit en fait, ils doivent payer des frais de scolarité contrairement aux autres enfants. Et au mépris de textes de conventions internationales telles que la Convention des droits de l'enfant ou la Déclaration universelle des droits humains. Donc au mépris de ces conventions internationales, le Québec continue de demander des frais de scolarité à des enfants pour les inscrire à l'école.
Des enfants aujourd'hui n'ont pas accès à l'école gratuite au Québec. Et, ben, ils doivent payer environ 6 000 ou 7 000 $. Pas possible pour nous de comprendre cette situation. Et le collectif est relié à Solidarité sans frontières, qui est un réseau qui lutte pour la régularisation des sans-papiers, pour la fin de la détention, pour la fin de la déportation et la fin de la double peine.
Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui doit se passer pour que la loi devienne plus inclusive? Quelle est l'opinion publique sur cette problématique maintenant?
D'abord, les jeunes, en général, ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe. C'est une réalité cachée. C'est pour ça que dans les journaux, les devoirs, on a publié la première fois l'année dernière un texte qui s'appelait « Les enfants fantômes ». Alors, d'abord, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas visible, qui est caché. Il y a des associations qui, après avoir connu ces réalités, étaient vraiment étonnées de voir une réalité si énorme qui était cachée à la réalité des personnes.
Quel effet cette exclusion a sur ces familles Que font ces enfants pendant la journée?
Alors, on a rencontré quelques familles où les enfants, effectivement, ne sont pas scolarisés. Donc, en général, ils restent à la maison, là, ils ne sont pas scolarisés, parce que les parents, déjà, ne savent pas, même s'ils sont... Il y a tellement peu d'informations, en fait, là-dessus, que déjà, c'est difficile d'avoir de l'information. Si les parents regardent les sites des commissions scolaires, on voit que chaque commission scolaire a un peu sa propre interprétation des règlements et que ce n'est pas les mêmes papiers demandés. On demande des papiers d'immigration valides, donc ça peut inquiéter et faire peur. Donc on demande les justificatifs de domicile avec l'adresse des familles. Et donc c'est, pour ces familles-là, c'est un danger de donner son adresse parce qu'on peut, certaines ont reçu un avis de déportation et ça peut être dangereux de donner son adresse. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème au niveau de la confidentialité qui fait que des enfants ne sont pas scolarisés, en fait, parce que les parents ont peur d'approcher les commissions scolaires. Donc, Maria Teresa, elle fait du soutien aussi dans le collectif. Elle peut parler plus précisément de la confidentialité.
J'ai accompagné quelques familles à la commission scolaire pour les aider à faire l'inscription à l'école. Et puis, on a remarqué que dans les formulaires d'inscription, il y a une petite note en bas que les gens qui sont en train de signer les papiers, ils croient que c'est juste un formulaire d'inscription, mais là-bas, c'est écrit que les parents, en signant cette inscription, autorisent à la commission scolaire d'informer à immigration quel est son statut, son adresse, etc. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de signer. Et il y a des gens qui ont une grande confiance à l'école, qui pensent que l'école, c'est une espèce de droit, de sanctuaire, d'un droit sûr où les enfants pourront étudier, mais il ne peut pas imaginer si l'école transmet cette information à l'immigration, ils pourront être déportés. Alors, la confidentialité s'est perdue là-bas.
Donc, les écoles menacent les familles au sujet de l'immigration.
C'est arrivé. Moi, j'ai eu deux familles qui m'ont raconté qu'on les a convoquées à l'intérieur de l'école pour leur dire « il faut payer, sinon on va appeler Immigration Canada, on va vous déporter ». Ça, j'ai eu deux exemples de ça, de menaces de dénonciation, donc c'est quand même assez grave. Et donc, il y a une famille qui a été concernée par ce type de menace, et l'enfant... L'enfant a été finalement, il y a eu un article dans Le Devoir il y a quelques temps, et aussi là il y a un article qu'on a écrit dans la revue À bas bord, juste là, qui vient de sortir. On raconte cette histoire de ce jeune enfant qui a été menacé d'être dénoncé. Finalement, on a changé d'école, il est revenu dans son ancienne école
pour fêter son anniversaire.
Et là, il s'est fait arrêter par la police et il s'est fait déporter à 16 ans sans sa famille.
Mais c'est quelqu'un de l'école qui a appelé la police.
C'est ça.
Et cette garçon, on va l'appeler Emilio, c'était un enfant mineur qui a été déporté. La famille n'a rien pu faire. Personne ne savait pas où il était. Pendant quelques jours, après, il était mis dans un avion. Et puis, il était déporté au Mexique, précisément dans la semaine où sont disparus les 43 étudiants qui, au Mexique, demandaient des revendications pour pouvoir étudier gratuitement et publiquement. Alors, on ne comprend pas comment les gens peuvent faire des choses comme ça.
Et du coup, il y a eu une plainte qui va être déposée, là, cette semaine, à la Commission des droits de la personne pour les agissements, par rapport aux agissements. Elle est recevable, cette plainte, par la Commission des droits de la personne. C'est la famille qui a déposé une plainte pour ce qui s'est passé, une dénonciation, comme ça, une menace de dénonciation. Les agissements de l'école et commissions scolaires vont être jugés là-dessus par la Commission des droits de la personne. Et du coup, c'est absolument anormal. On considère que c'est anormal que des personnels dans une école puissent se comporter comme des agents d'immigration, demander des papiers d'immigration. C'est absolument rien à voir avec l'éducation. On ne comprend pas pourquoi ils se transforment en agents d'immigration et même en policiers, quelque part. C'est un peu ça. Donc, on considère, nous, que ça devrait être séparé. Les questions d'immigration et d'éducation, ça n'a absolument rien à voir. Donc, voilà, c'est une de nos revendications, en fait, que ce soit deux choses séparées.
Pour répondre à la question, en effet, catastrophique, c'est précisément que dans ces pays qui on accueille telle quantité d'immigrants, on les accepte pour travailler. Et même s'ils sont français ou son anglais, ce n'est pas parfait, on les accepte. Mais par contre, on ne laisse pas étudier les enfants parce qu'on a des problèmes de papiers. Alors, ça, c'est un effet que nous voudrons vraiment changer.
Est-ce que les enfants comprennent la situation?
Non, c'est difficile. Il y a un enfant, une fois, il nous avait dit « Est-ce que l'école, c'est fait pour les riches ?» Enfin, il ne comprenait pas, c'est ça. Est-ce que, il y a une distinction, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent payer. Ceux qui ne peuvent pas payer, ils ne sont pas scolarisés. Donc, c'est vrai que c'est quand même une incompréhension. Et parfois, les enfants, ils posent des vraies questions, là, qu'ils voient les choses plus clairement que les adultes. Voilà, donc c'est vrai qu'ils comprennent quand même la situation.
Les enfants comprennent qu'ils doivent rester sans rien faire pendant la journée parce que ses parents sont des parents sans papier. Mais ils ne comprennent pas pourquoi il y a des autres enfants qui, par contre, ils sont dans l'école. Alors, c'est la meilleure façon de les apprendre qu'est-ce que c'est la discrimination.
Donc, la question, c'était par rapport aux enfants, leurs aspirations et comment ils perçoivent cette injustice. Donc, c'est vrai qu'ils ont les mêmes aspirations que les autres enfants. Et il y avait un enfant qui nous avait écrit une lettre en disant qu'il voulait devenir médecin, qu'il voyait sa vie future ici, etc. Et ils ne comprennent pas. Enfin, ils trouvent ça vraiment injuste, le sort qu'on fait subir à leurs parents. Et puis, à eux aussi, là, c'est quand même... Assez triste pour eux de voir que leur futur peut être entravé par le gouvernement.
Et aussi, il y a des enfants qui comprennent que même si c'est injuste, ils ne doivent pas aller à l'école pour éviter que les problèmes de la maison et de ses parents grandissent, comme s'ils étaient responsables de cette situation. Alors, ils sont en train de grandir dans une culture qui les donne des valeurs qu'on n'a pas pensé trouver ici.
Et la question de la garde des enfants, quand les parents sont au travail, qu'est-ce qui se passe?
Je sais qu'il y a des enfants dans des familles qu'on avait rencontrées qui sont en garderie. Par contre, ils n'ont pas droit à la CPE, donc au tarif à 7 $ et quelques maintenant. Là. Donc ça, il faut, même si l'enfant, ça c'est assez grave, même si l'enfant est né ici. Donc ça, c'est un problème aussi, un autre combat à mener. C'est que des enfants canadiens
qui sont nés ici
n'ont pas droit au tarif de garde des CPE, même si, en raison de la situation de sans statut de leurs parents. Donc, ils n'ont pas droit à ce type de garderie, mais du coup, les familles payent soit des gardiennes ou des garderies privées.
Et parfois, s'ils sont des adolescents de plus de 12 ans, ils restent tout seuls à la maison en train de jouer, ou de faire des activités en boisson pour les garder. Mais c'est vraiment, vraiment une situation injuste pour les enfants et très triste.
Ou alors, la mère aussi, du coup, est empêchée de travailler. Si elle doit rester garder ses enfants, du coup, elle ne peut pas aller travailler.
Il y a 2 ans que Toronto a été considérée une ville sanctuaire et a adopté une politique « Don't ask, don't tell ». Est-ce que c'est un modèle que vous souhaitez suivre?
Oui, oui, tout à fait.
Bien sûr, on a mis toujours l'exemple de la ville de Toronto pour nos revendications. En plus, c'est pas juste Toronto. Dans tous les autres États, ces problèmes n'existaient pas.
Mais c'est vrai, le Don't Ask, Don't Tell, c'est quelque chose c'est la commission scolaire de Toronto. Après, la ville de Toronto a adopté ça, mais la commission scolaire de Toronto a adopté cette façon de faire, c'est-à-dire ne demandez pas, ne dénoncez pas. Du coup, ça a été adopté suite à une mobilisation. Donc après, il faut que les gens se mobilisent pour que ça puisse avoir lieu. Sinon, ça ne va pas être fait tout seul. Donc c'est vraiment suite à des mobilisations. Et là, nous, sur l'éducation, c'est quelque chose d'important, mais ça peut être élargi à la santé. À la santé, au service pour les personnes qui subissent des violences, au logement, etc. Donc ça peut couvrir toutes sortes de domaines, en fait, et que toute personne qui habite dans un endroit, et là, dans une ville, puisse avoir accès à tous les droits auxquels tous les résidents devraient avoir droit aux services qui sont donnés. Il ne devrait pas y avoir de discrimination selon qu'on a des papiers ou pas. Il suffit d'habiter dans un endroit pour avoir les services qui sont offerts aux résidents.
Et ça, c'est une norme vraiment facile et rapide à faire. On n'a pas besoin de passer des années pour penser comment résoudre ça. On l'a déjà fait ici au Canada. Et c'est pour ça que les collectifs Éducation sans frontières demandent faire cet changement dans la norme. Même pas dans la loi, dans la norme. Et puis...
En fait, on a toujours rencontré un mépris, en fait, de la part soit des commissions scolaires, soit des gouvernements par rapport à cette question. En fait, tout le monde s'en fout, là, des sans-papiers. C'est des gens qui votent pas, c'est pas...
Donc, mais ils payent quand même
ces
impôts.
C'est ça, ils payent des impôts, ils payent des taxes. Il y a beaucoup de familles même qui payent leurs impôts, qui ont qui travaillent déclarés, même s'ils sont sans-papiers, ça existe aussi. Donc, ils payent un loyer, donc ils payent la taxe scolaire, si on veut parler d'argent, là, c'est pas... Non, même si... C'est pas une question d'argent.
Elle paye tout.
Donc, c'est vrai qu'on a observé vraiment un mépris de la part des gouvernants là, par rapport à cette question. C'est pour ça que ça traîne depuis si longtemps. Là. Il n'y a vraiment pas de volonté de changer les choses. Là, la protectrice du citoyen a dit qu'il faut un plan d'action. Donnez-nous un plan d'action avant le 30 janvier. Elle a demandé au gouvernement de donner un plan d'action. Alors, il l'a fait. Mais... c'est pas public pour l'instant, donc on sait rien. Mais on pense qu'il faut continuer la pression, parce qu'il faut toujours maintenir la pression, toujours se mobiliser, sinon rien ne change. Donc c'est ça. Donc nous, on est un peu seuls sur cette cause-là. Donc on aimerait vraiment élargir aussi à d'autres, si d'autres personnes veulent rejoindre le collectif, ou d'autres groupes, d'autres organismes communautaires veulent se mobiliser aussi. On peut faire des choses ensemble et on espère vraiment être plus nombreux. Alors, la protectrice du citoyen dit qu'en fait, c'est simplement un règlement à changer, puisque du coup, c'est la résidence du Québec qui est définie en annexe à la loi sur l'instruction publique. C'est un règlement. Après, peut-être, si on change la loi, c'est bien, parce qu'une loi, c'est plus, ça reste plus longtemps. Là, je pense qu'un règlement, moi, c'est une garantie.
C'est plus facile, plus rapide, oui.
Mais du coup, ça peut être le règlement, la loi, enfin, peu importe, là, il faut que ça change. Donc, on attend. Je pense que, moi, c'est possible. Ils peuvent prendre une décision en une journée, et c'est fait, quoi. Enfin, après, il y a toujours des excuses, comme quoi c'est long, etc. Mais la protectrice citoyenne dit, elle, que c'est simplement un règlement à changer.
Et qui est responsable?
Ah, ben là, c'est le gouvernement. Enfin, c'est le gouvernement, là, c'est lui qui peut changer les choses, là, qui peut donner des directives, tout de suite.
Mais les commissions scolaires, ils peuvent faire ici quelque chose, c'est de ne pas se mêler à faire des agents d'immigration. On devrait faire une séparation entre les écoles et immigration.
Et une chose aussi qu'on a appris dans le rapport de la protectrice du citoyen, c'est qu'elle dit que, en fait, le fait que les commissions scolaires et les écoles demandent les papiers d'immigration aux familles...
On n'a pas le droit d'être...
En fait, que c'est écrit dans aucun règlement. Donc ça, on ne savait pas, mais en fait, on l'a appris avec ce rapport-là. Du coup, ils font des choses qui ne sont même pas légales. C'est écrit dans aucun règlement de demander les papiers. Donc là, ce qu'ils font, moi, quand j'accompagne la commission scolaire, la dame de l'organisation scolaire... demande, vérifie les papiers s'ils sont en règle. Normalement, ça ne devrait pas être son travail. Et apparemment, c'est dans aucun règlement. Donc, c'est même illégal ce qu'ils font, en fait. Voilà. Donc, on demande que la loi ou le règlement donc, qui oblige à avoir une résidence légale pour avoir la gratuité scolaire ben, soit immédiatement modifié et qu'il suffise d'habiter dans un endroit pour avoir la gratuité scolaire. Que tous les frais de scolarité demandés aux familles soient annulés, parce que là, il y a plein de familles qui reçoivent des factures actuellement et qui vont recevoir au mois de juin. Donc, on veut aussi que pour ces familles-là, ce soit annulé. Que chaque enfant inscrit se voit automatiquement attribuer un code permanent, parce que ça aussi, c'est un autre problème, on n'en a pas parlé, mais il y a des enfants scolarisés, et parce qu'ils sont sans statut, n'ont pas de code permanent. Du coup, leur scolarité, en fait, n'est pas reconnue.
C'est comme si ça n'existait pas, oui.
C'est ça. Donc ça, c'est un autre problème. Donc on demande qu'il suffit d'être inscrit pour avoir un code permanent. Et surtout, donc, comme on l'a dit plusieurs fois, qu'une politique de confidentialité soit mise en place, et qu'aucune information sur le statut ne soit demandée au moment de l'inscription. Et qu'aucune information, si jamais les commissions scolaires ou les écoles en détiennent, ne soit communiquée aux autorités. Et enfin, qu'une campagne d'information publique multilingue soit mise en place quand le changement aura lieu pour faire connaître aux personnes touchées ce à quoi elles ont enfin droit. Et aussi que ben, tout le système fonctionne... que les commissions scolaires, les écoles et des directives pour appliquer les modifications. Et on aimerait aussi que d'autres organismes, collectifs, syndicats se joignent à nous pour mobiliser là dans les mois qui viennent. Donc on est en train de rédiger d'ailleurs notre déclaration pour essayer une déclaration collective. On aimerait ne plus être seul sur cette cause et qu'il y ait vraiment d'autres groupes qui nous rejoignent sur cette lutte parce qu'il faut qu'on soit plus nombreux pour que ça change.
Oui, c'est ça.